jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur la révolution inouïe que nous sommes en train de vivre avec l'intelligence artificielle. En compagnie du chercheur qui est à l'origine même de cette révolution du deep learning, de l'apprentissage profond des machines, Yann Lequin, lauréat du prix Turing, directeur du laboratoire de recherche fondamentale en IA de Facebook. Il vient de publier chez Odile Jacob un ouvrage dont nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Quand la machine apprend, la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond. Un essai qui, sans éviter les questions qui fâchent, nous entraîne au cœur, même voire dans le ventre, de ces machines qui apprennent désormais par elles-mêmes, pour le meilleur comme pour le pire, autour de la question comment relever les défis de l'intelligence artificielle. Bienvenue entre vrais fantasmes et fausses promesses pour nous interroger ensemble.
Construire une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique.
Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre.
Est-ce qu'une machine peut penser?
Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches, on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin.
Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle?
La machine de Turing, actuellement sur la scène du Théâtre Michel à Paris, c'est pour vous Yann Lequin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous sur RFI. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un lauréat du prix Turing, l'équivalent du prix Nobel en informatique. Il faut dire que vous êtes un chercheur visionnaire, pionnier de l'apprentissage profond des machines. Vous avez révolutionné la recherche en intelligence artificielle, professeur à la New York University. Vous dirigez le laboratoire de recherche fondamentale en IA de Facebook. Et vous venez de publier, Yann Lequin, aux éditions Odile Jacob, « Quand la machine apprend », ouvrage dans lequel vous retracez à la fois votre parcours au carrefour des neurosciences et de l'informatique, mais aussi vos sujets de recherche et d'interrogation sur l'IA, en évitant aucune question qui fâche. Car l'intelligence artificielle omniprésente dans nos vies aujourd'hui soulève de nombreuses interrogations, de nombreux fantasmes aussi. C'est pour y répondre que vous avez décidé de prendre la plume, Yann Lequin.
C'est pour répondre à la soif de curiosité de la part du public pour cette question, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle va affecter notre vie tous les jours, l'économie, etc., nos métiers. Et puis, pour intéresser la jeunesse dans ces questions. Donc, il y a des parties du livre qui sont un petit peu historiques, un peu autobiographiques, et puis d'autres qui sont un petit peu techniques, et tout le monde ne lira pas tout.
Moi, en tout cas, j'ai trouvé passionnant cet ouvrage, « Quand la machine apprend ». Et puis aussi parce que vous-même, Yann Lequin, en tant que directeur de la recherche fondamentale chez Facebook, vous n'êtes pas épargné par toutes ces interrogations, voire parfois par ces attaques, justifiées ou non. C'est aussi pour clarifier un peu tout ça que vous avez décidé de faire preuve de transparence.
Oui, un petit peu pour expliquer que les questions de modération de contenu, par exemple, que Facebook se trouve obligé à faire, sont des questions très compliquées au niveau tant de politique que de technologie. Donc la technologie est la politique. Les politiques de contenu, doit-on conserver des contenus haineux, doit-on les supprimer, comment les détecter automatiquement vu la masse de données qui circule sur les réseaux sociaux, sont des questions compliquées. Aucun système ne peut être parfait.
Et oui, et c'est là que se posent plein de questions. Mais est-ce que, c'est ça que j'ai envie de vous demander, Yann Lequin, est-ce qu'on se trompe un peu de peur parce que, ou est-ce qu'on n'est pas un peu, comme vous le dites vous-même, un peu à contre-temps parce que on a peur de l'intelligence artificielle? Déjà, ce mot, il fait peur aussi. Intelligence artificielle, IA. Ce serait quoi votre définition, d'ailleurs, Yann Lequin, de l'intelligence artificielle?
Alors, l'intelligence chez les animaux, les humains, c'est la capacité à percevoir, à raisonner ou à planifier et à agir. Et c'est un petit peu la même chose pour les machines.
Disons, capacité à percevoir raisonner et agir.
Et pour l'instant, avec les techniques actuelles d'intelligence artificielle, on arrive à les faire percevoir, mais pour le reste, raisonner et agir, on est encore un petit peu en retard par rapport au monde vivant.
C'est-à-dire, quand on dit intelligence artificielle, déjà ce mot, ça vous va? Parce que ça en choque certains, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est vraiment... Déjà, vous dites, c'est pas, peut-être pas encore, en tout cas, la même intelligence. Ça peut faire peur que ça le devienne un jour, d'ailleurs.
Alors, oui, en fait, l'expression est un petit peu malheureuse. Malheureusement, elle est passée dans le langage courant. Mmh. Je préférerais l'apprentissage machine ou l'intelligence des machines, l'intelligence machine, l'apprentissage automatique. Il y a plusieurs noms, en fait, pour désigner certains de ces sous-ensembles. Mais on ne peut pas changer ce qui est passé dans le langage courant. On ne parle pas, par exemple, de vol artificiel quand il s'agit des avions. C'est le vol.
Or, les avions sont pilotés par des intelligences artificielles.
En fait, des intelligences qui ne sont pas très sophistiquées. Les pilotes automatiques n'ont pas besoin d'être très sophistiqués pour fonctionner. C'est très en deçà des capacités des systèmes modernes d'intelligence artificielle.
Vous dites dans cet ouvrage, Yann Lequin, finalement la question elle se pose en ces termes. Comment apprendre à une machine non seulement à apprendre, c'est ce que vous avez réussi à faire avec cet apprentissage profond, mais aussi à raisonner. C'est ça finalement le plus gros défi.
Alors en fait, il y a eu deux branches de recherche dans l'intelligence artificielle qui étaient un petit peu rivales. Les deux sont nées dans les années 50. Une qui était justement basée sur la modélisation des processus de raisonnement logique en particulier, et qui a mené à une branche d'intelligence artificielle qu'on appelait à un certain moment le système expert. Maintenant, on appelle ça en anglais la good old fashioned AI, c'est-à-dire la bonne vieille intelligence artificielle. C'est un peu la méthode classique, si vous voulez. Mm-hmm. Et puis une autre branche qui était plus basée sur l'inspiration de la biologie, sur l'apprentissage, sur l'idée que l'intelligence est inséparable de l'apprentissage. C'est en fait ce à quoi je souscris. Et cette branche-là a eu des périodes de succès dans les années 60 et puis de nouveau dans les années 80, début des années 90. Mais deux périodes noires, en fait, dans les années 70, début des années 80, et puis milieu des années 90 jusqu'à à peu près une dizaine d'années, où peu de gens, en fait, travaillaient sur cette idée d'essayer de copier, ou en tout cas de s'inspirer un petit peu de la nature pour faire des machines capables d'apprentissage.
Vous êtes accroché, hein, vous êtes accroché parce que, au fond, et ça vous le dites bien aussi dans cet ouvrage, Yann Lequin, ce qui vous intéresse, c'est justement la notion d'intelligence au sens large, finalement, comment cerveau humain, cerveau animal apprend et comment faire apprendre à des machines, c'est ça?
Oui, la quête qui est derrière ça, bien sûr, c'est une des grandes questions scientifiques de notre temps. Donc il y a trois catégories de grandes questions scientifiques. Comment fonctionne l'univers? De quoi est fait l'univers? Qu'est-ce que la vie? Et comment fonctionne le cerveau? Enfin, que veut dire l'esprit humain, etc. Et cette troisième question, on peut étudier les neurosciences, on peut étudier ça de tout un tas de manières différentes, mais ayant la fibre de l'ingénieur, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre le fonctionnement du cerveau sans en avoir construit un soi-même, si vous voulez. Donc c'est un petit peu l'idée derrière cette quête scientifique d'essayer de construire des machines intelligentes. Mais bien sûr, il y a plein d'applications pratiques.
Il y a plein d'applications pratiques, ça on le sait, qui nous entourent aussi aujourd'hui, mais qui parfois nous interrogent également autour de cette question: comment relever les défis de l'intelligence artificielle. Une des premières questions qui se pose, c'est celle de la confiance. Vous parliez des avions et des pilotes automatiques. Comment faire confiance à ces machines qui pensent et qui sont capables d'apprendre par elles-mêmes? C'est ça, une des grandes questions pour nous.
Alors, elles ne pensent pas beaucoup pour l'instant. Elles peuvent percevoir, comme je dis, donc c'est très, très utile quand on veut, par exemple, entraîner une machine à faire du tri d'informations sur Internet ou à choisir quel contenu filtrer ou quel contenu montrer aux gens que ça peut intéresser, d'une part. Par ailleurs, c'est très utile pour, par exemple, détecter des tumeurs dans des mammographies, pour analyser des images médicales, des IRM. Donc pour ça, on a besoin de perception et ces méthodes fonctionnent très bien pour ça, à condition d'avoir suffisamment de données.
Suffisamment de données pour les apprendre,
pour les entraîner.
Pour entraîner les ordinateurs, c'est
voilà,
ça.
Voilà, donc la manière dont on entraîne ces machines, ou ces programmes, en fait ce sont des programmes qui tournent sur des ordinateurs un petit peu classiques. Si on veut entraîner une machine, par exemple, à reconnaître des objets de tous les jours, des voitures, des avions, des tables, des chaises, On collecte des milliers d'images de chacune de ces catégories. On montre une image, par exemple, d'une table à la machine. Et si la machine dit table, on fait rien. Et puis si elle dit quelque chose d'autre, on ajuste ses paramètres internes pour que sa sortie se rapproche de celle qu'on veut. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et le défaut de cette méthode par rapport à l'apprentissage humain et animal, c'est que ça nécessite des milliers, quelquefois des millions, quelquefois des milliards d'exemples. Donc ça ne marche que dans certaines conditions. Par exemple, on utilise ce genre de méthode pour faire la reconnaissance de la parole, transcrire la parole en texte. On utilise aussi cette méthode pour traduire d'une langue à une autre. Et si on veut traduire de l'anglais au français, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a énormément de phrases, de textes qui ont été traduits d'une langue dans l'autre. Donc on a beaucoup de données d'entraînement. Mais si on veut, par exemple, traduire du birman en swahili, on n'a pas beaucoup de données. Donc là, ça devient vraiment très difficile et on se heurte au fait que ces méthodes sont très gourmandes en données.
Très gourmandes en données. Et puis, c'est avec des algorithmes que ces machines apprennent. Ces algorithmes qui ont envahi tous les domaines de notre vie, suscitant eux aussi de nombreuses craintes, justifiées ou non. Pour faire le tri, je propose l'éclairage en forme de question d'un autre éminent chercheur en informatique, Rachid Guerraoui, qui vous a succédé, Yann Lequin, en Collège de France, sur la chaire informatique et numérique l'an passé. Rachid Guerraoui est actuellement professeur à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Écoutez sa question, elle est pour vous.
Je pense que la question qu'on doit lui poser en général, mais que je lui poserai en plus des autres, c'est qu'en est-il de la fiabilité des algorithmes déployés par les systèmes d'intelligence artificielle en général ? Je pense que ce que déploie, pas forcément Facebook, Yann Lequin est à Facebook, mais partout ailleurs, les algorithmes sont très peu fiables. Alors quand on les utilise pour décider ce qu'on va mettre sur le fil d'actualité Facebook, c'est pas très grave, mais si on commence à les mettre sur autre chose, est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres manières de concevoir ces algorithmes ?
Vous avez une réponse à cette question algorithmique,
Yann Lequin ? C'est une question très, très intéressante. Alors, pour ce qui est de, par exemple, la reconnaissance d'images, certainement, effectivement, si on fait une erreur sur ce qu'on montre aux gens à Facebook, ce n'est pas trop, trop grave. Mm-hmm. Par contre, si on rate une tumeur dans une image médicale, mm-hmm. c'est beaucoup plus grave. Donc, pour cela, il faut non seulement que les algorithmes soient fiables, en fait, aucune méthode qu'on utilise de diagnostic médical n'est complètement fiable. En fait, elles ont toutes un certain taux de faux positifs et de faux négatifs. C'est-à-dire, quand on a un système de détection, on obtient une espèce de quantité, de degré de confiance de la décision de la méthode pour tout test médical. Et en fonction du seuil au-delà duquel on décide que le test est positif, il y a certains cas qui en fait seront des faux positifs et en dessous il y aura certains cas qui seront des faux négatifs. Donc la grosse question c'est est-ce que la fiabilité de ce système est suffisamment bonne pour être utile à un humain qui va prendre la décision à la fin du diagnostic, qui peut prescrire d'autres tests pour confirmer. Par exemple, les tests de dépistage de certaines maladies infectieuses, comme la maladie de Lyme, sont extrêmement peu fiables, en tout cas ceux qui ne sont pas trop chers, et ceux qui sont fiables sont extrêmement chers. Donc il y a toute cette histoire. Donc on n'a pas besoin d'avoir un algorithme qui est complètement fiable pour être utile.
D'accord.
Par contre, bien sûr, si on veut un système de ce type-là qui pilote une voiture, on veut être à peu près sûr qu'il ne fasse pas d'erreur.
C'est clair.
Et les humains, on a l'impression qu'ils ne sont pas très fiables pour conduire les voitures, mais en fait, il y a très peu d'accidents mortels. C'est un accident mortel sur 160 millions de kilomètres, je crois.
Avec l'intelligence artificielle ?
Non, tout seul, juste les humains. Donc pour que les systèmes
d'intelligence artificielle... Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas super fiables, mais ça marche quand même. C'est ça que vous nous dites.
Oui, et pour que des systèmes d'IA soient acceptés dans la conduite automatique, il faudrait qu'il soit au moins 10 fois plus fiable, en fait. Donc on arrive à des taux de fiabilité d'un accident mortel pour quelques milliards de kilomètres.
Ça, c'est tolérable.
Ce serait magnifique, parce que ça réduirait les morts sur les routes dans des proportions énormes, mais il faut que les machines soient bien meilleures que les humains pour qu'elles soient acceptées par le public.
Donc il faut que les machines, quelque part, nous dépassent
oui.
pour qu'elles soient acceptées par le public.
Alors il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on arrive à des performances surhumaines pour des systèmes d'IA, à condition que la tâche qu'on leur fait accomplir soit très étroite. C'est-à-dire, on les entraîne, par exemple, à conduire une voiture sur l'autoroute. Ils savent conduire une voiture sur l'autoroute. Ils ne le feront pas sur la place de la Concorde à 6 heures du soir. On entraîne un système à jouer au go ou à jouer aux échecs.
Et à battre, et à devenir meilleur que le meilleur joueur de
voilà,
go.
Voilà, à plat de couture. On ne peut pas recycler ces méthodes pour les appliquer à d'autres problèmes qui sont de nature très différente. Donc, les méthodes actuelles fonctionnent quand on entraîne les machines à des tâches très très précises. Et dans ces tâches très précises, ces machines peuvent produire des capacités, des fiabilités surhumaines.
Ce serait ça, en tout cas pour le moment, parce que vous dites bien, on ne sait pas ce qui se passera ensuite au niveau de l'intelligence artificielle, oui. Mais pour le moment, ce serait ça, les limites, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas, ce qu'elle peut, on le voit bien, à force de calculs gigantesques, elle peut apprendre et devenir hyper forte dans un domaine spécialisé, mais ses limites, c'est que ça s'arrête là. Hein, alors que nous, humains, mais les autres animaux, enfin le vivant en général, est capable de s'adapter. Ce serait ça la différence ?
Alors, pas s'adapter parce que les machines aussi peuvent s'adapter, mais
d'accord.
C'est plus que les animaux et les humains semblent avoir, en tout cas certains mammifères et certains oiseaux, semblent avoir une intelligence qui est un petit peu plus générale. C'est-à-dire, les animaux et les humains semblent être capables de construire, d'apprendre très rapidement des modèles du monde. D'accumuler des quantités de connaissances en fait sur le fonctionnement du monde dont on n'a pas idée parce que c'est de l'ordre du subconscient mais qui sont absolument gigantesques et c'est ce genre d'apprentissage que j'appelle apprentissage autosupervisé qu'on ne sait pas reproduire dans les machines, c'est-à-dire l'apprentissage qui nous permet quand on a quelques mois de réaliser que quand un objet est caché derrière un autre il est toujours là, de réaliser que les objets ne disparaissent pas d'un seul coup et ne réapparaissent pas ailleurs, ils bougent de manière continue, que certains objets sont animés, d'autres sont inanimés, que quand un objet n'est pas soutenu dans l'air, il va tomber à cause de la gravité. Un bébé apprend la notion de gravité aux alentours de l'âge de 8 ou 9 mois. Un bébé de 6 mois qui voit un objet qui apparemment flotte dans l'air n'est pas du tout surpris. Ce qui n'a pas encore appris en fait la physique intuitive.
Mais en grandissant, il va devenir surpris.
Voilà, un bébé de 10 mois qui voit un objet qui flotte dans l'air va le fixer avec des yeux écarquillés, se demandant qu'est-ce qui se passe.
C'est l'expérience, c'est le sens, comment dire, le bon sens, le sens commun.
Le sens commun. Donc le sens commun est probablement l'accumulation. Enfin, c'est une hypothèse. Hein,
oui.
Est probablement l'accumulation de tous ces savoirs, ces connaissances intuitives qu'on apprend sur le fonctionnement du monde par observation dans les premiers mois de la vie. Et c'est ce type d'apprentissage qu'on ne sait pas reproduire avec les machines pour l'instant. On y travaille, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre.
Bah, vous dites on y travaille, mais en même temps, là, de nouveau, ça nous fait peur. C'est-à-dire qu'on se dit tant mieux, les machines nous surpassent dans des tâches très précises et à la limite peut-être tant mieux. Quoique, on va voir, c'est pas toujours le cas, parce qu'un de nos auditeurs nous dit, mais finalement, quand les machines apprennent, c'est nos boulots qui disparaissent. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que mettez-vous dans la situation où vous avez besoin de construire, disons, une petite entreprise ou de faire un projet, même si c'est un projet qui n'est pas commercial, et vous devez embaucher des gens qui ont une expertise complémentaire à la vôtre. Allez-vous hésiter à embaucher des gens qui sont plus intelligents que vous dans les domaines vous êtes intéressé à faire...
Non, pas du tout. Si on veut que ça marche, non.
En fait, je dis très souvent que dans le laboratoire de Facebook, je n'embauche que des gens qui sont plus intelligents que moi. Maintenant, imaginez que ce n'est pas une personne que vous embauchez, mais c'est une machine que vous utilisez. Vous voulez que la machine soit le plus intelligent possible parce que vous voulez qu'elle fonctionne le mieux possible pour la tâche que vous voulez accomplir. Et cette machine, en fait, est sous vos ordres. Elle va amplifier votre intelligence. Elle ne va pas vouloir vous dominer. Contrairement à quelques humains, en fait, qui peuvent vouloir prendre votre place, la machine ne voudra jamais prendre votre place.
Donc, ne voudra jamais prendre... Ce qui est quand même un classique de science-fiction, par exemple.
C'est un classique de science-fiction, mais c'est en fait une erreur assez grave qu'on fait, c'est-à-dire qu'on projette les qualités et les défauts de la nature humaine sur les machines. La raison pour laquelle les humains ont un certain désir d'influencer et quelquefois même de dominer leurs semblables, et que la nature l'évolution nous a créé comme une espèce sociale. On a des relations sociales dans l'espèce humaine et des relations sociales qui sont hiérarchiques. Donc il y a un désir de dominer qui est dû à notre organisation sociale. Si vous prenez par exemple les orang-outans qui sont presque aussi intelligents que nous, eux ne sont pas des animaux sociaux, ils n'ont aucun désir de dominer qui que ce soit. Et même dans l'espèce humaine, le désir de dominer n'est pas lié à l'intelligence. En fait, il est peut-être même inversement proportionnel à l'intelligence. Il est plutôt lié à la testostérone. Et c'est pas les plus intelligents d'entre nous qui veulent devenir les chefs. On en a des exemples criants dans la scène politique internationale.
Là-dessus,
aujourd'hui,
je ne vous contredirais pas, mais ce qui veut dire que vous vous inspireriez ou que vous inspirez des orang-outans pour apprendre aux machines ou pour faire une intelligence artificielle spécialisée, extrêmement bonne, mais qui ne prendrait jamais notre place. Vous dites que c'est une erreur de penser ça.
C'est une erreur de penser ça. On a tous l'expérience d'avoir interagi avec des gens qui étaient très intelligents et qui étaient un petit peu socialement isolés, qui ne voulaient pas avoir particulièrement d'interaction et qui ne voulaient certainement pas devenir le chef de quoi que ce soit. Donc c'est un peu l'idée du geek, hein, j'en suis un. Et comme je vous l'ai dit, dans le laboratoire de Facebook, il y a 300 chercheurs et ingénieurs qui sont tous plus intelligents que moi et qui ne veulent pas nécessairement... qui ne veut pas avoir forcément ma place.
Autour de la question de l'intelligence, alors artificielle, dont nous, et surtout vous, Yannick, Yann Lequin avait doté nos machines, pour le meilleur comme pour le pire, nous ne sommes heureusement pas encore des machines, enfin, pas encore, hein, à l'écoute d'Antoine Salaire sur RFI, vous n'êtes pas une machine.
Non. Email. Veuillez confirmer votre email. Mot de passe. Vous devez créer un mot de passe. Votre mot de passe doit comporter au moins un chiffre et une majuscule. Je suis désolé, ce mot de passe existe déjà. Veuillez répondre à l'une des questions ci-dessous. Nom de votre animal de compagnie. Plat préféré. Nom de jeune fille de votre mère. Veuillez recopier les caractères ci-dessous pour vérifier que vous n'êtes pas une machine.
Voilà qui est dit par Antoine Salaire, musicien complice de François Morel sur RFI. Nous sommes en votre compagnie, Yann Lequin. Est-ce que parfois ça ne vous agace pas un peu ce genre de questionnaire de machine et de prouver qu'on n'est pas un robot et pas une machine?
Oui, mais ça reflète en fait une faiblesse des programmeurs de ces systèmes.
Ah, une faiblesse humaine qu'on nous parle comme à une machine.
Des limites des concepteurs de logiciels qui nous obligent à passer par tous ces obstacles. Non, bien sûr, c'est énervant pour tout le monde. Ça, c'est dû, en fait, à un manque d'intelligence des machines, pas un excès d'intelligence des machines.
Oui, d'ailleurs, Rachid Hiraoui, le chercheur que je vous faisais entendre auparavant, m'avait dit ici même, d'ailleurs, que finalement, ce qui l'affolait plus, c'était la bêtise naturelle des algorithmes ou des machines, plutôt que leur intelligence artificielle. Là, vous partagez ce point de vue.
Absolument, absolument.
En tant que, donc, prix Turing et directeur du laboratoire de recherche fondamentale en intelligence artificielle de Facebook, Yann Lequin, et puisque vous n'êtes pas une machine, vous pouvez répondre à la question posée depuis le Cameroun par un de nos auditeurs. Sur Facebook d'ailleurs, hein, puisque c'est notre lien de communication. Martial 2, il aimerait bien connaître votre position sur le rapport intelligence artificielle et rapport humain et sociaux, puisque vous travaillez chez Facebook, vous êtes référent dans ce domaine. Est-ce que ça change et qu'est-ce que ça change dans nos rapports sociaux? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez?
Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, indirectement, en fait, affecte nos rapports sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, même s'ils n'utilisaient pas l'intelligence artificielle, affecteraient nos rapports sociaux. Tout nouveau système de communication change, en fait, les données un petit peu des rapports sociaux. L'apparition du téléphone, par exemple, au départ, la plupart des personnes de bonne famille ne voulaient pas utiliser le téléphone. On ne parlait pas dans une machine. Certains se rappellent peut-être relativement récemment l'apparition des répondeurs. Mm-hmm. Et pendant des années, les gens ne voulaient pas laisser de messages sur les répondeurs. On ne parle pas d'une machine. Donc il y a toujours
un petit peu. Aujourd'hui, c'est la machine qui nous parle.
Aujourd'hui, c'est la machine qui nous parle. Et puis on parle à la machine. Notre parole est reconnue. C'est beaucoup plus général, beaucoup plus généralisé. Donc ça va certainement affecter les relations sociales. Maintenant, la question, c'est dans le futur, arriverons-nous à faire des machines intelligentes qui nous permettront de créer, par exemple, des assistants virtuels qui nous accompagneront dans notre vie tous les jours, répondront à toutes nos questions et seront comme, en fait, un assistant humain, mais seront notre meilleur ami digital, si vous voulez.
Vous avez envie de ça, Yann Lequin ?
Je pense que tout le monde, en fait, a envie de ça.
Moi, je suis pas sûre. Hein. Moi, j'ai pas tellement envie qu'on me parle, ni que mon téléphone me parle, ni qu'ils reconnaissent ma voix, par exemple.
Ceci dit, vous.
Je suis un peu âgée.
Vous avez probablement un smartphone dans votre poche.
Absolument.
Et si on vous en avait parlé, disons, en 2000, vous auriez dit non, mais à quoi ça servirait ? J'en ai pas l'utilité. Donc, c'est ce genre de choses qui apparaît, et puis les gens réalisent en fait que ça remplit un besoin. C'est un petit peu ce que montre le film de Spike Jonze, le film Her, qui est en fait une espèce d'histoire d'amour entre une personne et son assistant virtuel, qui est bon, le roman est ce qu'il est, mais c'est intéressant.
Bah, je vous propose justement, Yann Lequin, d'écouter un petit extrait de la bande-annonce du film Her de Spike Jonze.
Monsieur Théodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Ok.
Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé.
Bonjour, je suis là.
Salut.
Salut, je suis Samantha. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Vous avez une réunion dans 5 minutes. Vous voulez essayer de sortir du lit ?
Vous êtes trop drôle.
Je suis drôle, bien, ok. Je veux apprendre tout sur tout.
J'aime votre façon de voir le monde.
Comment c'est d'être en vie dans cette pièce à cet instant précis ?
J'aimerais pouvoir mettre mes bras autour de toi. Pouvoir te toucher.
Comment me toucherais-tu ?
Comment toucher une assistante virtuelle aussi séduisante soit-elle ? On pourra aller jusque-là, Yann Lequin, c'est possible de tomber amoureux pour le coup ?
Ah, pas encore du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout ni la science de base ni la technologie pour permettre aux machines d'être intelligentes de cette manière, d'avoir justement le sens commun que Samantha, l'assistante virtuelle, semble avoir. Par contre, on y travaille d'arrache-pied parce que ça va certainement avoir une grosse influence sur la vie des gens.
Ça va encore tout chambouler.
Ça va, pas tout chambouler, mais disons, ça va libérer l'humain pour lui permettre de se concentrer sur des choses proprement humaines. C'est-à-dire, je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser, la technologie, en fait, répond à des besoins de l'humanité, et une grande partie des besoins de l'humanité, c'est de se connecter les uns avec les autres. C'est un peu, d'ailleurs, la raison d'être de Facebook, de connecter les gens. Et de se libérer des tâches ménagères, de calendrier, etc., permet de se concentrer justement sur des activités avec une vraie authenticité, une interaction humaine, la création.
Et ça marche peut-être, enfin ça marche pour des gens, comment dire, qui sont bons, mais on a aussi, nous les humains, d'autres côtés, plus pervers, il y a aussi des monopoles, voilà, on nous pousse à consommer, et nous-mêmes on veut bien consommer. Qu'est-ce que vous faites de nos côtés ? Je suis d'accord, c'est formidable de communiquer entre nous, mais enfin on sait très bien qu'on a aussi d'autres pulsions, nous les humains, et que la technologie nous aide à les assouvir, ou au contraire, même nous aliène, et cette fois-ci ne nous libère plus du tout.
Alors ces technologies, nouvelles ou anciennes, l'histoire se répète un petit peu, ce côté-là, n'est pas toujours pour tout le monde. C'est-à-dire que il est très clair que, en général, les générations disons âgés, ont toujours une certaine méfiance vis-à-vis de nouvelles technologies qui sont adoptées par les nouvelles générations, et se demandent comment les nouvelles générations peuvent passer autant de temps qu'ils interprètent comme étant du temps perdu. Mais donc effectivement, pourquoi la jeunesse depuis 30 ans passe tant de temps à jouer à des jeux vidéo ou à des jeux sur ordinateur ? Pourquoi certains passent tant de temps sur les réseaux sociaux ? À quoi ça sert d'échanger des photos de votre dernier repas, etc. Mais en fait, il y a aussi un rôle très positif de ces communications, et ce genre de critique des vieilles personnes, disons, ou des personnes plus seniors, vis-à-vis des jeunes générations a existé de tout temps. Donc certainement au XVe siècle ou au XVIe siècle, après l'invention de l'imprimerie, probablement beaucoup de gens dans les champs critiquaient leurs enfants qui se plongeaient dans les livres, dans la lecture des livres, en leur disant « mais tu perds ton temps à lire ces livres, pourquoi ne vas-tu pas travailler ?»
C'est le même processus, sauf qu'il est aujourd'hui beaucoup plus rapide et qu'il change beaucoup plus les choses et qu'il est accessible à tout le monde, en fait. Enfin, c'est quand même, oui. il y a une accélération extraordinaire de tout ça.
Absolument, il y a une accélération de l'évolution technologique. Une croissance exponentielle fait que l'accélération elle-même accélère. Donc on assiste à des mutations de la société qui sont
et c'est ça qui peut faire peur. Et parmi les risques de l'intelligence artificielle, il y a cela, évidemment.
Oui, alors ça fait que des gens qui sont habitués à un certain type de société ont du mal peut-être à comprendre et à saisir ces mutations. Et l'inconnu cause la peur, en général.
L'inconnu cause la peur, mais tout de même, un autre de nos auditeurs au Cameroun nous parle de guerre des intelligences, et on se dit quand même, quand on regarde du côté de la Chine, par exemple, et de l'usage qui est fait de ces nouvelles technologies, peut-être que la Chine avait les mêmes pratiques, mais avec ces nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile d'espionner, de mettre en boîte un peuple.
Toute technologie, la technologie elle-même est neutre, elle peut être utilisée par les sociétés, pour des utilisations bénéfiques et quelquefois pour des utilisations néfastes, c'est vrai de toute technologie. C'est vrai d'ailleurs de l'imprimerie, par exemple. L'imprimerie, d'une certaine manière, a permis de diffuser les écrits de Luther et Calvin qui ont, en Europe, causé 200 ans de guerre de religion et de persécution. Par ailleurs, l'imprimerie a aussi permis de distribuer les écrits du siècle des Lumières et de, en fait, permettre l'apparition de la démocratie. Donc, toute technologie, en fait, peut avoir des effets positifs et des effets négatifs. Ce qui nous protège des effets les plus négatifs, c'est le processus démocratique. Donc, là où il existe, il faut le protéger. Là où il n'existe pas encore, il faut le faire venir.
Et le créer. Parce que ça peut poser question aussi à nos auditeurs, notamment sur le continent africain. J'ai rencontré des jeunes journalistes scientifiques qui me disaient « Mais attention, nous ne faisons pas confiance à nos gouvernants, à nos gouvernements. Comment leur confier toutes nos données ?» Ça aussi, c'est une question soulevée par l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde.
Donc, la question de « à qui avez-vous confiance pour conserver vos données privées ?» c'est une question très importante. Je vais vous dire en ce qui me concerne, j'ai confiance dans de grandes compagnies qui savent ce qu'ils font, comme Facebook et Google, pour conserver les données privées. J'ai beaucoup moins confiance dans des petites compagnies qui produisent des applis sur les smartphones qui peuvent possiblement récupérer l'information un peu trop privée et qui n'ont pas les mêmes codes de déontologie. Malgré tout ce qu'on raconte, ni Facebook ni Google ne vendent l'information personnelle à qui que ce soit et les protègent de manière très très jalouse d'ingérence du gouvernement. C'est-à-dire que les serveurs de Facebook, par exemple, ne sont installés que dans des pays où la législation est extrêmement claire, que le gouvernement ne peut pas accéder aux données privées.
Donc évidemment pas en Chine.
Évidemment pas en Chine, mais d'ailleurs même pas en Europe continentale.
Autour de la question, comment relever les défis donc scientifiques, techniques, mais aussi éthiques, sociaux, économiques soulevés par l'intelligence artificielle? Nouvelle question pour vous, Yann Lequin, soulevée par quelqu'un que vous connaissez bien, l'actuel président du CNRS, Antoine Petit, ex-PDG d'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Sciences Numériques.
Salut Yann, Antoine Petit. Ça fait quoi d'être prix Turing, alors, finalement? Une deuxième question, peut-être un peu plus technique, le prix Turing dont je parlais, tu le dois à tes travaux sur le deep learning. C'est quoi pour toi les grands enjeux à venir du deep learning, en particulier selon toi, permettre de faire le deep learning qui ne fait pas actuellement et qu'est-ce qui reste à faire d'un point de vue scientifique? Et peut-être aussi, qu'est-ce que le deep learning ne permettra jamais selon toi? Je me souviens t'avoir entendu dire quelque chose comme... que tu n'imaginais pas que tu verrais de ton vivant une intelligence artificielle de l'intelligence d'une souris. Si je me souviens bien, c'était quelque chose comme ça. C'était déjà il y a quelques années. Est-ce que tu as changé d'avis? Et si oui, c'est quoi qu'est-ce que tu attends de voir d'ici la fin de ton vivant? Et sinon, c'est quoi les échéances pour tes enfants, tes petits-enfants et ceux qui viendront après?
Pouvez-vous répondre à Antoine Petit,
oui,
Yann Lequin?
Antoine, toujours facétieux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le prix Turing? Alors, c'est bien sûr une consécration, c'est un immense honneur. En ce qui me concerne, en fait, il y a eu une grande bataille d'idées qui a duré plusieurs décennies de savoir quelle était la meilleure approche pour l'intelligence artificielle, et même pour est-ce que la notion d'apprentissage avait un sens, et puis à l'intérieur de l'apprentissage quel type de méthode en fait était susceptible d'avoir du succès. Et le succès a été un petit peu long à arriver à cause du fait que au jour où ces idées sont apparues, qui est dans la fin des années 80, début des années 90, les machines n'étaient pas assez puissantes et les sources de données pas assez abondantes.
Pour pouvoir apprendre aux machines.
Hein. Voilà, et donc ces conditions se sont réunies avec quelques idées nouvelles d'algorithmes, etc., à la fin des années 2000, début des années 2010, où il y a eu des révolutions successives en reconnaissance de la parole, en reconnaissance de l'image et en traitement de la langue naturelle, traduction, etc., dans un espace de quelques années. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est quels sont les défis du deep learning, de l'apprentissage profond pour le futur. Donc c'est cette question dont on a déjà parlé, comment faire en sorte que les machines apprennent par observation la quantité énorme de connaissances que les enfants acquièrent dans les premiers mois de la vie.
Et quelles sont vos pistes justement puisque...
Donc j'en parle un petit peu dans le livre, dans le chapitre 7 plutôt.
Dans ce livre, je rappelle à nos amis auditeurs que nous en avons un exemplaire à vous faire gagner, si vous nous demandez par mail ou sur notre page Facebook, et intitulé « Quand la machine apprend », votre Léviane Lequin.
Donc je parle un petit peu sur des pistes à suivre peut-être pour faire ce genre de progrès. J'appelle ça l'apprentissage auto-supervisé, donc qui en fait permettrait à une machine de s'entraîner à comprendre le monde par prédiction, c'est-à-dire en s'entraînant à prédire ce qui va se passer, soit prédire dans le temps, soit prédire les choses qu'elle ne voit pas à l'heure actuelle, mais qu'elle risque de découvrir.
Là encore, si je ne m'abuse, vous inspirez de notre cerveau humain, qu'on a qualifié de statisticien, c'est ça, hein ?
Oui, alors c'est peut-être un petit peu plus haut niveau. Le type d'apprentissage qu'on utilise pour l'instant pour les machines est cet apprentissage supervisé que je décrivais précédemment, dans lequel on donne à la machine la réponse correcte. Il y a un autre type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, qui est utilisé pour entraîner les machines qui jouent au go, aux échecs, etc., dans lequel on ne donne pas à la machine la réponse correcte, mais on lui dit si sa réponse était correcte ou pas. C'est beaucoup moins efficace. Il faut que la machine fasse énormément d'essais en fait pour apprendre quelque chose.
Mais elle devient surhumaine si
on y met le prix. Bon, pour le Go en particulier. Bon, le Go est en fait un cas particulièrement simple, malgré ce qu'on peut en penser. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que en fait, les humains sont très très mauvais au Go. Les meilleurs humains en fait pensaient qu'ils étaient très près du joueur idéal, du joueur de Go idéal qu'ils appellent Dieu. Et en fait, on s'aperçoit avec ces systèmes que les humains sont très 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 mauvais.
En fait, c'est ça que ça nous montre, cette intelligence artificielle, c'est que nous, on n'est pas si intelligent que ça au fond. Hein.
C'est très intéressant en fait de connaître les limites de l'intelligence humaine.
Autour de la question de l'intelligence humaine et artificielle, on a une question vraiment pour vous et d'un de nos auditeurs à Boaké en Côte d'Ivoire, Yacouba Koné. Il prépare une thèse de doctorat sur l'IA et il aimerait vous demander, Yann Lequin, à quel niveau en sommes-nous quant au ressenti des émotions par les machines dites intelligentes?
D'accord. Alors, je vais répondre très rapidement, puis je reviendrai un petit peu par la suite. Je pense que l'intelligence autonome est inséparable de l'existence d'émotions. C'est-à-dire, quand on arrivera à faire des machines qui sont autonomes, elles auront des émotions. Alors, avant de répondre à cette question un peu plus en avant, je vais répondre à la dernière question d'Antoine Petit
sur l'avenir, enfin qui va rejoindre aussi
sur l'avenir. Quelles sont les limites que le deep learning, l'apprentissage profond, ne dépassera jamais. Alors, Antoine Petit dit que j'ai dit que on n'arrivera pas à l'intelligence d'un rat avant la fin de ma carrière ou la fin de ma vie. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que je considérerais ma carrière comme un succès si à la fin de ma carrière, on arrivait à faire une machine qui est l'intelligence aussi générale et le même sens commun qu'un rat ou qu'un chat. Un chat un peu plus intelligent qu'un rat, mais quand même. Et donc c'était une manière de dire que pour l'instant,
on en est très loin.
On n'a pas assez On n'a pas ces techniques. Malgré le fait qu'on puisse faire des machines très intelligentes avec des performances surhumaines sur des tâches étroites, on n'a pas ces techniques pour l'intelligence un peu plus générale. Mais bon, on y travaille. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire que ça pourra prendre 5 ans, 10 ans. Il y aura peut-être une nouvelle idée qui va apparaître d'ici 2 ans, qui va tout révolutionner. Une fois que l'idée sera apparue, avant qu'elle devienne vraiment pratique, ça va peut-être prendre une décennie ou deux. Et puis ensuite, il faudra des années de développement pour vraiment...
Mais c'est lié avec cette question des émotions, entre émotions. Guillemets, de pouvoir ressentir, on se dit, une machine qui ressent... Moi, alors, ça ne me plaît pas non
la
plus.
La question, hein, c'est
ça.
Qu'est-ce que c'est vraiment que les émotions ? Alors, on peut voir deux sortes d'intelligence artificielle, d'intelligence en fait. Une intelligence réactive, on pourrait l'appeler réactive, qui est un petit peu similaire à ce que Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie et psychologue, appelle le système 1. Donc, c'est le genre d'action qu'on prend de manière intuitive, sans réfléchir. Peut-être parce qu'on est en train d'accomplir une tâche avec laquelle on est très familier, on n'a pas besoin de réfléchir, on est habitué. Donc par exemple, quand on conduit une voiture et qu'on a beaucoup d'expérience, on n'a pas besoin d'y prêter beaucoup d'attention, on peut parler à notre voisin, etc. Donc ça, c'est l'intelligence un peu intuitive, un peu directe, dans laquelle il n'y a pas de raisonnement. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut reproduire avec les machines pour l'instant.
Elles peuvent être intuitives,
Elles sont intuitives,
Elles
n'ont pas de raisonnement explicite. Par contre, il y a un autre type d'intelligence qui est plus autonome, dans lequel on ne spécifie pas à la machine quelle tâche ou quelle action elle doit prendre, mais on spécifie la tâche qu'elle doit accomplir par un objectif. C'est-à-dire qu'on lui dit, par exemple... va nous chercher du café, mais on ne dit pas comment.
Il faut qu'elle fasse tout le chemin.
Voilà, donc il faut qu'elle planifie à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire qu'il faut que j'aille à la machine à café, que je fasse cette telle action, etc. Donc c'est du raisonnement, de la planification. Et en fait, une grande partie des mammifères, des animaux, des humains certainement, ont ce type d'intelligence dans lequel, quand on est né, on sait que quand on a faim, on doit se nourrir, mais la nature ne nous dit pas comment. On doit utiliser notre intelligence pour satisfaire cette pulsion. Donc le désir de satisfaction d'une pulsion, c'est une émotion. L'anticipation d'une pulsion qui va être satisfaite ou insatisfaite, c'est aussi une émotion. Le fait que notre modèle du monde qui nous permet de prédire ce qui va se passer dans le monde, s'il prédit par exemple que la situation va devenir dangereuse, ça cause une émotion de peur, et c'est dû à la prédiction et à l'essai de satisfaction d'un objectif.
De l'utilité de nos émotions.
De l'utilité de nos émotions. Donc ce qu'il nous faut, c'est dans ces machines, ce sont des machines qui seraient des machines autonomes qu'on ne sait pas encore construire, c'est un modèle du monde qui leur permet de prédire les conséquences de leur action, de leurs actions, donc qui leur permet de planifier à l'avance en réfléchissant qu'est-ce qui va se passer, et puis un objectif. Donc par exemple, c'est ce genre de modèle du monde qui nous permet, en tant qu'humain, d'apprendre à conduire une voiture en une vingtaine ou une trentaine d'heures d'entraînement.
Alors que un ordinateur, ce serait beaucoup plus d'heures, c'est ça?
Voilà, si on voulait utiliser les techniques actuelles d'apprentissage par renforcement ou par imitation pour entraîner une voiture à se conduire, il faudrait qu'elle conduise des millions d'heures, qu'elle cause des dizaines de milliers d'accidents, qu'elle tombe dans des ravins. Une voiture ne saura pas à l'avance que si elle conduit près d'un ravin et qu'elle tourne le volant vers la droite, elle va tomber dans le ravin et les conséquences sont très négatives.
Il va falloir lui apprendre. Alors je ne sais pas si nos machines, qu'on vivra en bonne intelligence avec eux, et si nos machines seront un jour capables d'apprécier votre choix musical, Yann Lequin, John Coltrane, qu'on écoute tout de suite sur RFI Blue World, enregistrement inédit de Coltrane, ressorti cette année par le label Impulse. On est tout ouïe. We'll be right back. Coltrane sur RFI Blue World, extrait d'un album inédit composé en 67 par Coltrane pour la bande originale d'un film québécois. Merci pour ce choix, Yann Lequin. Je ne sais pas quand nos intelligences artificielles apprécieront ce genre de morceau. Moi, j'espère jamais, mais j'imagine que vous espérez qu'un jour il soit capable quoi, de les composer ou de l'apprécier ?
Apprécier, composer probablement. L'apprécier, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce que j'aime dans le jazz, c'est la performance intellectuelle et la communication directe avec des émotions du musicien vis-à-vis de la salle et entre les musiciens qui jouent les uns avec les autres. Et c'est une expérience proprement humaine. C'est quelque chose, même si on peut faire des systèmes maintenant qui peuvent improviser du jazz qui sont techniquement corrects, il n'y a pas de communication d'émotions. Et donc, aller à un concert de jazz est une expérience irremplaçable.
Et oui, c'est du vivant et de l'humain.
Voilà, ouais. Ça va monter en valeur par rapport au bien matériel qu'on peut faire fabriquer par des machines et qui ne vaudront plus rien.
C'est ça, en fait, qu'il faut cultiver. C'est nos biens immatériels et pas seulement virtuels. Il est aussi beaucoup question, alors c'est un peu au-delà d'intelligence artificielle, mais on entend beaucoup parler d'ordinateur quantique aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va nous arriver ou on est là dans la science-fiction ?
Oui, donc il y a déjà quelques prototypes, mais en fait, qui ne résolvent pas de problèmes particulièrement intéressants encore. Et il y a très peu de ce qu'on appelle les algorithmes quantiques qui ont une performance dont on peut prouver qu'elle est supérieure aux ordinateurs classiques. Je n'ai, en ce qui me concerne, pas beaucoup d'espoir que les ordinateurs quantiques aient une influence, quelle qu'elle soit, sur l'intelligence artificielle à court terme et à moyen terme.
Je pense qu'on peut vous croire et vous suivre, Yann Lequin. Vous terminez cet ouvrage quand les machines apprennent, hein, vous qui êtes un des pionniers, hein, de l'intelligence artificielle et en tout cas de l'apprentissage profond de nos ordinateurs. Vous terminez sur cette science de l'intelligence qui est encore en devenir. C'est assez étonnant quand même. Au fond, vous cherchez. Et on ne sait pas jusqu'où vous nous emmènerez.
Oui, donc c'est la grande question scientifique. Qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce que l'intelligence humaine ? Qu'est-ce que la nature humaine ? Et dans l'histoire de la science et de la technologie, il a été assez fréquent que des ingénieurs ou des scientifiques inventent de nouveaux artefacts technologiques, comme par exemple le moteur à vapeur. Et la théorie qui explique les limitations du moteur à vapeur et des moteurs thermiques de manière générale n'est venue que 100 ans plus tard. Avec Carnot et d'autres, avec la thermodynamique en fait, qui est devenue un petit peu la base de toute la physique. Et il est très possible en fait que la création de machines intelligentes ou semi-intelligentes nous permettra d'élaborer une espèce de théorie générale de l'intelligence qui s'appliquerait non seulement aux machines mais aussi aux humains et aux animaux. C'est un petit peu mon projet scientifique, si vous voulez, c'est d'essayer de découvrir quels sont les principes fondamentaux de l'intelligence, de l'apprentissage.
C'est le meilleur qu'on puisse nous souhaiter. Merci infiniment, Yann Lequin, d'être venu en direct partager vos recherches mais aussi vos interrogations avec nous. Je rappelle le titre de votre essai qui répond à la plupart de nos questions, même celles qui fâchent, en toute transparence, sur l'intelligence artificielle. Quand la machine apprend la révolution des neurones artificiels qui vient de paraître chez de l'apprentissage profond et des neurones artificiels qui vient de paraître chez Odile Jacob et dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Je signale aussi la création à Paris de l'Institut Prairie, Paris Artificial Intelligence Research Institute, qui sera un vrai lieu de recherche et d'échange sur les enjeux de l'IA. Et puis, je signale enfin la leçon inaugurale ce jeudi au Collège de France du professeur Walter Fontana, invité cette année sur la chaire informatique et numérique du Collège que vous avez occupé. Également, Yann Lequin, il sera question cette année du vivant et de l'ordinateur. Les cours et la leçon inaugurale seront à suivre bien sûr sur Internet, sur le site du Collège de France où l'on retrouve aussi vos cours et vos conférences. Yann Lequin, merci.
Merci.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour nous interroger cette fois-ci sur les effets de la méditation. Oui, la méditation, quels sont ses effets sur notre cerveau. À demain. Pour en savoir plus, surtout restez curieux. Merci.